Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur cette libre antenne du samedi soir en ce premier week-end du printemps, une période de l'année propice au changement et au renouveau. Une période où, un peu comme au premier de l'an, on prend de bonnes résolutions. Savez-vous d'ailleurs quelles sont les résolutions que nous prenons toujours en priorité? Si on fait un top 3, la première qui apparaît, c'est perdre du poids. La seconde, se remettre au sport. Et la troisième, c'est d'arriver à lâcher prise et à positiver pour réduire notre stress. Alors pour les deux premières, soyons clairs, je ne peux pas vraiment vous aider, si ce n'est en vous incitant à prendre conscience que votre corps est votre ami et que vous êtes responsable de lui. Pour diminuer votre stress et positiver en revanche, je vous invite à ne pas rester seul ce soir et à venir prendre la parole sur cette libre antenne. Appelez-moi au 3921, Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir au standard d'Europe 1 dans cette ambiance si particulière de la nuit qui nous permet de nous sentir plus libres de parler de tout. Venez me parler de vous, de votre vie, de vos expériences. Venez partager vos doutes, vos questions. Pour réagir ou participer par SMS, vous faites le 739-21 en commençant bien sûr par le mot « nuit ». Vos SMS sont toujours importants si vous souhaitez faire une suggestion, apporter une idée, une réponse ou simplement un soutien. Ou encore si vous souhaitez entrer en contact avec la personne que vous entendez. Dernier lien entre nous, le mail, libreantenne@europe1.fr, libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, j'ai le plaisir de travailler avec Andreas Papadzian. Et puisque tout le monde est là, eh bien la Libre Antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et dans un instant, nous allons retrouver Monique, avec qui on avait commencé à parler hier soir. Monique qui souffre d'une sclérose en plaques. À tout de suite. Monique ? Allô, allô ?
Sabine.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Merci d'être fidèle au rendez-vous. On s'était quitté hier soir après avoir fait connaissance, mais on n'avait pas eu beaucoup de temps de se parler. Donc je vous avais demandé si vous étiez OK pour qu'on se retrouve ce soir, ce qui est le cas.
Tout à fait. Et bon. Je vous remercie pour votre considération.
Ben, c'est la moindre des choses. C'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps. Ce que vous aviez commencé à nous dire, mais si j'ai bien compris, ça n'était que le début de votre histoire, c'est que vous avez été diagnostiquée avec une sclérose en plaques.
Tout à fait, donc en 2013.
On va rappeler que vous êtes jeune, vous avez 55 ans. Non, vous avez... quel âge ? 48. 48, pardon, je vous vieillis en plus. Je vous vieillis en plus, pardon.
Tout à fait. J'ai 48 ans. J'ai été diagnostiquée extrêmement agressivement en 2013, après 3 années de souffrance.
Oui, agressivement. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas forcément à l'écoute hier, qu'on avait abordé le fait que malheureusement, certains médecins bien vous annonce une maladie difficile à accepter de manière rapide et entre deux portes, la plupart du temps sans soutien, sans empathie. Pas tous, hein, il ne s'agit bien sûr pas d'énoncer tout le monde, il s'agit juste de dire que ça arrive et que c'est extrêmement difficile d'entendre le diagnostic, mais qu'en plus il n'y a pas d'empathie et qu'on vous livre à vous-même en vous fermant la porte, en disant « allez, au revoir, bonne journée, débrouillez-vous », c'est d'autant plus difficile, c'est ce que vous avez vécu.
C'est exactement ça. Avec la nécessité de vivre jour après jour, de ne pas quitter son emploi parce que c'est ce qui génère des revenus, et de constater, bien avant de lire les témoignages d'autres malades, que c'est une spirale vers le bas.
Oui.
Vous perdez votre logement, votre emploi est menacé, et votre corps, qui était votre meilleur ami, ça l'est encore, vous lâche.
Ouais. Et vous nous disiez hier aussi que ça s'est très très mal passé au niveau du travail, justement.
Ah, ça continue à se passer très mal parce qu'effectivement, les ressources humaines de mon secteur d'emploi s'est procuré mon dossier médical qui est expertisé par un centre spécial aérien, aéronautique.
Oui, on rappelle que vous travaillez comme hôtesse de l'air, en fait, c'était ça.
sur long courrier en plus.
Et que forcément vous avez une visite médicale poussée, c'était tous les deux ans, c'est ça?
Tous les deux ans et qui est éliminatoire. Il faut absolument être apte physiquement et psychiquement, ce que je comprends tout à fait. Mmh. Sauf que cette maladie leur a fait peur alors que je suis apte, aux normes en tout cas de ma compagnie, mmh. et qu'ils font tout depuis 2013 et jusqu'à ce jour pour me faire partir absolument.
C'est vraiment d'une violence inouïe. Non seulement on doit faire face à la maladie, mais en plus à ça. Quoi.
Alors, vous avez bien résumé la situation. Et ce qui est peut-être... maintenant, je la sais mieux parce que j'ai d'autres ressources, dont celle de vous parler, par exemple. C'est de ne pouvoir le dire à absolument personne. Parce que ce serait délétère, parce que... vous risquez de perdre votre licence parce que vous faites peur aux propriétaires, parce que vous pouvez pas le dire pour obtenir un crédit, vous pouvez le dire à personne.
Oui, mais je crois que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont dans une situation de maladie connaissent ça. Les gens qui ont eu un cancer et qui ont refusé un crédit des années après aussi.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Et puis maintenant, avec les... Comment ça s'appelle ? La Sécurité sociale vous propose d'avoir un dossier unique où, de toute façon, tout votre cursus est renseigné. Mmh. Donc, c'est atroce, en fait.
Mmh. On est fiché et on est fiché malade, quoi, voilà.
Voilà.
On ne devient plus que ça et le reste s'efface. C'est terrible.
C'est horrible, alors que moi, je me vis, pardon de le dire, mais je me vis... Je suis ma plus grande héroïne.
Vous avez bien raison.
Je le dis humblement, hein, mais parce que je le constate tous les jours, se hisser hors du lit quand j'y arrive, trouver une raison de vivre, je la trouve à mon travail parce que j'aime les gens et que j'aime servir, tout bêtement. C'est difficile quand on vous met des bâtons dans les roues constamment avec des moyens plus que répréhensibles. Mmh. Et alors, ce qui me donne un peu moins de force, c'est que, ayant perdu mon logement suite au décès de ma propriétaire, je passe depuis un an et demi de chambre d'hôtel à chambre d'hôtel, comme je vais devoir le faire demain avant midi. C'est extrêmement déstabilisant, fatigant nerveusement, mais je continue à rester à l'hôtel parce que j'ai habité dans un premier temps pour faire des pseudo-économies dans ma voiture, au troisième sous-sol de mon immeuble, qui compte 8 étages. Quand vous visualisez ça avant d'aller vous coucher, c'est un petit peu dur de ne pas utiliser son mouchoir. Et je dors de temps en temps quand les chambres d'hôtel sont prises d'assaut grâce ou à cause des salons professionnels. Je dors dans les sous-sols de mon employeur. Je lui ai laissé entendre, en mettant ma fierté de côté récemment, là, à l'occasion d'une proposition de sanction. Voilà, donc maintenant, plus personne ne peut dire « nous n'étions pas au courant ». Ce sont des gens qui ont les moyens financiers, économiques et sociaux de vous aider et qui n'en font rien parce qu'ils gèrent par le pourrissement. Ça, c'est mon commentaire. Mmh. C'est vraiment une...
Pardon Monique, mais que je comprenne bien, vous travaillez toujours?
Ah oui, absolument.
Donc vous avez un salaire, même s'il n'est pas forcément important. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas retrouver un logement?
Alors, je me concentre sur le 1% patronal, parce qu'au moins, j'imagine qu'on ne gère plus les dossiers par l'image. Et en fait, par exemple, le dernier que j'ai validé, que j'ai demandé, on me dit de devoir me le refuser parce que je gagne moins qu'un autre homme. Qui gagne plus que moi, Ce à quoi j'ai répondu, ben, c'est fait exprès. Je ne suis pas payée pareil qu'un homme. Le précédent logement que j'ai validé, la personne ne s'est pas déplacée pour nous faire visiter. J'étais pas la seule candidate. Donc, si vous voulez, c'est un peu pénible. Et il y a également un logement que j'ai demandé à une de mes chefs de cabine, parce que c'est des gens qui payent l'ISF hein, et grand bien leur fasse, qui m'a répondu, je cite ces termes, « Je préférerais que ce soit pour vous un pied-à-terre. » Voilà, je me rappelle de l'expression. « Pour ne pas abîmer le logement. »
Oui.
Donc, je ne sais pas si les gens se rendent compte de la violence de ce rapport. Je travaille dans cette compagnie depuis plus d'une dizaine d'années. Autrement dit, j'ai mis toutes les billes de mon côté. Travailler, ne pas me plaindre, être en CDI, travailler pour une grosse enseigne. Et en fait, vous vous rendez compte après des années...
Tout ça pour ça, quoi.
Ça ne suffit tout ça pour ça.
Monique, pardonnez-moi, on doit faire une courte pause. Je récupère dans un instant.
Merci.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Monique, vous êtes là ?
Oui, tout à fait.
Je vous le dis tout de suite pour qu'on ne se fâche pas, parce que les pubs sont un peu disséminées partout ce soir, et il y en aura une dans pas très longtemps à nouveau, donc on sera obligé de faire une autre courte pause, mais ce n'est pas grave. On se parle. J'étais en train de réfléchir, le 1% patronal, c'est pour une location, j'imagine ?
C'est pour une location.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin pour vous trouver une location abordable ?
Ah, j'utilise tous les chemins, comme vous dites. Je me fais parvenir des alertes mail du particulier à particulier. Je ne sais pas si on a droit de citer...
On va éviter, mais enfin, tout le monde connaît les quelques chemins classiques qui nous amènent vers l'immobilier.
Ah ben, hein. Il y en a pas... J'utilise tous les chemins. Celle du 1% patronal, celle des forums intranet, le bouche à oreille... Même si je ne veux pas avoir l'air de quémander, de me plaindre, pour m'en sortir, je suis obligée de demander si quelqu'un loue des appartements, etc.
Parce que oui, vous êtes en CDI, vous avez un salaire.
Oui, qui est moindre, mais qui a le mérite
d'exister, d'être là. Et oui, et à partir de ce moment-là, vous pouvez parfaitement postuler à une location. Hein.
Mais absolument, absolument. Sauf que, en général, lorsqu'on me voit, ça passe mal. Voilà. Donc, je sais pas trop. Jusqu'à présent, je me disais que ça va forcément finir par. Je vais forcément finir par me loger. Je me rends compte que ça fait plus d'un an et demi. Ce pourquoi je vous appelle surtout, c'est pour échanger sur, en dehors de ce sentiment d'injustice, sur l'isolement social qu'engendre cette situation de maladie,
de différence, moi je dirais en fait.
De différence. À ce moment-là. C'est énorme parce qu'on est tous différents et on donne tous le change dans la vie. Mais surtout, je suis persuadée que je peux avoir des témoignages, pas vraiment sur la sclérose en plaques, mais sur des contacts intelligents de généralistes qui connaissent cette maladie et de neurologues qui soient respectueux, patient et qui soit dans l'explication et pas dans asséner leur vérité dans leur tour d'ivoire. Et
vous savez quel est pour moi le meilleur médecin du monde ?
Soi-même, la nourriture.
Aussi, mais pas que. Non, mais vraiment, véritablement là, quand je parle de médecin, c'est celui qui vous dit « je ne sais pas ».
Merci.
Eh oui, celui qui vous dit « je vous accompagne, mais honnêtement, je ne sais pas », je me dis « ah, lui, il est intéressant ». plutôt qu'effectivement celui qui va vous asséner des vérités sans vous connaître, sans connaître votre histoire, vos antécédents, qui vous êtes vraiment. Parce qu'on a une maladie, on n'est pas une maladie.
Merci. Mais il me semble, si je peux me permettre un commentaire sur cette discipline qu'est la médecine, je pense, évidemment je ne les excuse pas parce que je souffre beaucoup de leur agressivité, il me semble que devant leur impuissance à comprendre les causes et de savoir et de voir dans les yeux certainement des patients
L'attente,
mais une attente qui ne sera pas productive, puisque, soi-disant, qu'on ne peut pas les soigner. Alors, ils compensent, il me semble, par une distance qui est vécue très durement. Ce qu'on me propose, et c'est là où c'est cornélien, je rigole, mais c'est nerveux, on me propose des immunosuppresseurs. Parce que comme vous le savez, ce serait d'après eux le système immunitaire qui attaque qui est le cerveau, qui la moelle. On me propose de prendre des immunosuppresseurs, ce qui fait tiquer mon employeur qui me dit « bah oui, mais vous êtes en contact avec beaucoup de gens à bord ». Beaucoup de maladies à l'étranger, comme s'il n'y en avait pas en France. Et donc, on va vous mettre sur la touche. Donc, tout ce que je fais de pensée positive, de visualisation constructive, de représentativité physique, parce que dans mon cas, c'est un gros travail.
J'entends bien, mais je suis contente de voir que vous êtes sur ce chemin-là.
Ça m'a pris des années, par contre.
Oui, bah forcément. Mais c'est un beau chemin.
Oui, je pense. Mais c'est grâce à des conférences, je donne un petit peu mes pistes. C'est grâce à des conférences auxquelles j'assiste dans les salons zen, dans les salons bien-être, à la lecture de bouquins sur le bien-être, sur le développement personnel. C'est grâce à l'observation de passagers, par exemple, qui ont cette maladie, et à qui je n'ose pas dire, mais moi aussi, madame, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas, en étant plus douce, plus tolérante, plus aidante, au lieu de leur opposer un agacement. Bref, et puis, voilà, se renseigner sur sa douance, sur ce qui fait qu'on est différent, en plus de la différence physique, biologique, voilà. Et puis des gens comme vous qui nous écoutez patiemment, avec bienveillance, si bien qu'on peut extérioriser tout ce qui nous triture l'esprit, j'avoue que c'est pas mal.
C'est gentil. Alors Monique, c'est en toute bienveillance que je vais vous dire qu'on doit faire une petite coupure à nouveau.
J'ai compris.
Merci, à tout de suite.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Oui Monique, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Alors il y a Gisèle qui a envoyé un message pour vous en disant « Merci de bien vouloir laisser mes coordonnées à Monique ». Voilà, elle souhaiterait entrer en contact avec vous, donc tout à l'heure si vous le souhaitez, Hassan vous laissera son numéro de téléphone.
Super,
elle précise pas pourquoi.
Beaucoup.
Et puis, il y a quelqu'un d'autre, il y a Laurence qui nous a laissé un message, ça va me permettre de faire un petit recadrage. Elle nous dit, mais c'est quoi sa question? Alors, je vais juste vous rappeler qu'il n'a jamais été dit qu'il fallait avoir une question pour passer à la libre antenne. Comme son nom l'indique, la libre antenne, c'est un espace de liberté, où on vient parler. Alors, quelquefois, on a des questions, quelquefois, on n'en a pas, et ça n'a aucune espèce d'importance. On est juste là pour se parler et échanger.
Ceci étant, si Laurence veut une question... j'en ai deux.
Allez-y, on a aussi le droit de poser des questions, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une obligation.
Et c'est tant mieux, parce que mettre des mots sur un mal-être, c'est pas forcément évident qu'il soit entendable par d'autres. C'est pas évident.
Bien sûr, c'est pas évident. Alors gardez vos questions au chaud parce qu'il y a effectivement il y a Lily qui dit pourquoi est-ce que votre employeur sait autant de choses, pourquoi tout lui dire et rapprochez-vous des réseaux de santé spécialisés dans la CEP.
Alors, est-ce que je peux répondre ?
Bien sûr, bien sûr.
Alors, j'ai rencontré une association et en fait, même si le premier contact a été très humain, très doux, j'ai dû me séparer de cette association parce que, en fait, comme les neurologues d'ailleurs, c'est mon avis, hein, ces gens-là ne connaissent pas la maladie, donc se nourrissent des renseignements et informations que vous leur donnerez et que d'autres leur donneront. Donc, ils pompent des informations qu'ils interprètent, parce que ce ne sont pas des soignants, et en croyant vous aider, ils sollicitent par exemple votre neurologue, en l'occurrence c'était une neurologue à la Salpe, qui donc s'est rendu compte que je souhaitais solliciter d'autres avis de collègues. Mmh. Neurologue, et qui évidemment l'a mal pris. Et maintenant, je suis excessivement en froid avec cette neurologue.
D'accord,
qui me demande de... Voilà.
Donc pour vous, l'expérience association, ça n'a pas été une bonne idée ?
En tout cas, ce contact-là, même si elle était charmante, cette dame de Créteil...
Ça ne vous a pas aidé ? Non.
Ça a été super délétère, je le regrette amèrement.
Et vraiment, on a beaucoup de questions concernant ce secret médical qui a été violé par votre employeur.
Qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Je ne sais pas, on a Jackie qui dit « Mais pourquoi le secret médical a été violé ? Est-ce que vous pouvez vous retourner contre lui ?»
Alors, pourquoi ça a été violé ? Ce centre d'expertise médicale dont je parlais et que tous les militaires et navigants connaissent, il y en a un à Clamart, mais il y en a qui sont internes, et c'est mon malheur, à la compagnie aérienne. Vous fait, entre autres bilans, par exemple, un Doppler, un bilan des yeux, un bilan sanguin, un bilan urine, etc., etc. Autrement dit, je me suis sentie obligée de leur dire voilà, je prends un immunosuppresseur pour telle affection. Donc j'ai été claire avec le centre d'expertise médicale, puisque ce sont des médecins militaires. Je ne l'ai absolument pas dit à mon employeur, évidemment. Et je reçois... Donc ce centre d'expertise me dit « Oui, mais enfin, c'est un immunosuppresseur que nous ne connaissons pas. » nous allons vous mettre, comment ils ont dit ça, sous observation pendant un mois, on vous déchoit de votre licence sol et vol. Autrement dit, pendant 30 jours, je suis confinée chez moi, oui, à essayer de garder le moral et en perdant bien sûr de l'argent, hein, naturellement. Parce que vous avez un salaire de base, mais vous avez des primes, véhicules... repas à bord, heure de nuit, blablabla. Et je me rends compte, au bout de 30 jours, personne ne m'appelle parmi les cadres de la compagnie. On attend 30 jours pour m'accuser d'absentéisme. Parce que pour eux, je vous résume rapidement, hein, parce que pour eux, je n'avais aucun statut. Ni de, comment on appelle ça, arrêt maladie, ou autre, ou femme enceinte, ou autre, je n'avais pas.
C'est une sorte de quarantaine, en fait.
Merci. En tout cas, je l'ai vécu comme telle.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, ulcéré, je vais voir les syndicats qui me disent alors déjà, on va s'en occuper. Mais d'autre part, tu as reçu un courrier, lis-nous le courrier que tu as reçu des ressources humaines. Et je lis, cher confrère. » Et il me dit, « Voilà, c'est terminé. Nous avons compris ce qui s'est passé. C'est un courrier issu du centre d'expertise médicale aéronautique à ton neurologue. Qu'est-ce qu'il fait sur le bureau des ressources humaines ?»
Ouais. Bon. Mais le piège est ouvert à ce moment-là, quoi.
Ah bah, oui. Et j'irai pas plus loin dans, dans mes commentaires. Parce que pour moi, en fait, c'est un faux qui a été...
C'est de la malveillance, ça.
Oh bah, très clairement. Très clairement. D'ailleurs, je baigne dans cet univers depuis longtemps.
Alors, on va passer à vos deux questions, Monique. Il y a encore un autre message de Catherine qui vous dit qu'elle a aussi une sclérose en plaques suite à une méningite et qu'elle n'a pas voulu prendre de médicaments et qu'elle arrive à avancer, ce qui surprend son médecin. Elle vous propose aussi de vous laisser ses coordonnées si vous souhaitez entrer en contact avec elle après l'émission.
Ah, ben merci beaucoup, parce qu'il se trouve que j'ai pris l'immunosuppresseur pendant une année seulement, que maintenant je ne suis absolument pas médicamentée et que du coup les neurologues de la SALP m'aboient dessus à chaque fois que je veux prendre des corticoïdes au moment des poussées, parce qu'évidemment je suis dans la perte, je perds de la force pour marcher, je tremble comme quelqu'un qui a Parkinson, enfin bon, j'ai des problèmes de vision, mais je sens que et ça, ça me réjouit très bêtement. Je sens que les neurologues sont épatés, mais au mauvais sens du terme, que mon état soit pas plus mauvais que ça. Ce qui m'empêche pas d'être affiliée à la maison, à la MDPH, et d'être reconnue comme ayant énormément d'handicap. Mais j'arrive à donner le change.
Quelles étaient vos deux questions, Monique, alors ?
Alors, les deux questions, si vous permettez, puisqu'il faut formuler, et je comprends, hein, chacun sa psychologie. Alors, la première serait de savoir si quelqu'un peut me conseiller un neurologue bienveillant, patient, qui prenne le temps d'expliquer le comment, le pourquoi, le combien et jusqu'à quand.
Dans quelle région êtes-vous ?
Alors, en principe, je suis de Paris. Mais maintenant que je suis SDF, je suis dans la région de Roissy.
D'accord, c'est en région parisienne, vous pouvez bouger.
Oui, je peux bouger. Je suis véhiculée, tout à fait.
Bon, bah écoutez...
Donc ça, c'était la première question, savoir, voilà... Si quelqu'un connaît et peut me transmettre les coordonnées d'un vrai neurologue et d'un vrai généraliste. Parce que les neurologues, je me suis rendu compte amèrement qu'on ne vous donne aucune piste pour vous préserver, que ce soit en termes alimentaires ou de sport ou de repos, ça ne les intéresse pas. Ils veulent juste que vous preniez un médicament idéalement à vie, même si ça ne vous soigne pas et que ça vous met en porte-à-faux avec votre employeur. Point. La deuxième question concerne le logement, donc c'est un peu prosaïque. savoir si quelqu'un peut me mettre en relation avec quelqu'un qui aurait un logement idéalement à Paris, parce que je suis déjà dans la perte, je ne veux pas perdre aussi de sociabilité. À Paris, même si vous êtes seul, vous pouvez vous asseoir à un parc et lire un bon bouquin, aller en bibliothèque, vous promener sur les quais.
Et puis il y a votre travail qui n'est pas loin, surtout.
Voilà.
Mais j'allais vous le proposer avant même que vous me posiez la question, bien évidemment, de lancer un appel ce soir. S'il y a des gens qui ont ne serait-ce qu'une chambre disponible à louer, il y a aussi ça. Dans un premier temps, ça peut déjà vous sortir de la rue.
Ben, c'est ce que m'a proposé le 1% patronal. Je leur ai sauté à la carotide parce qu'il me dit « Oui, mais prenez une chambre de bonne ou une colocation. »
Non, c'est pas de ça dont je vous parle pour l'instant. J'ai bien compris que c'est un appartement que vous cherchez. Mais en attendant, je parle de solutions intermédiaires.
Je comprends.
Si en attendant de trouver l'appartement qui pourrait vous convenir et que vous pourriez assumer et qui trouver un... Le bon endroit, peut-être pourriez-vous, en attendant, être hébergé par quelqu'un.
Tant que c'est un dernier étage, ça me va. Parce que dormant à des heures pas possible. Il faut absolument que je puisse me reposer quand les gens bougent énormément, passent l'aspirateur.
Oui, courent. Bien sûr, il faut qu'il y ait une cohabitation possible. Mais on a bien compris, je pense que la cohabitation n'est pas la solution, c'était juste une suggestion intermédiaire, mais l'idéal, ce serait absolument. Effectivement quelqu'un qui puisse vous louer un endroit indépendant.
Voilà.
Un petit appartement quelque part où vous pourriez être chez vous et être tranquille, avec vos horaires décalés, bien sûr.
Et qui ne soit pas fermé à la différence de couleur.
Oui.
Bon. Voilà, c'est tout.
J'ose espérer ça aussi, oui. Oui,
oui, oui. Ouais.
Écoutez, Monique, l'appel est lancé.
Merci beaucoup.
En tout cas, je vous félicite parce que je... Pardon ?
Merci à Gisèle, à Laurence, à Catherine.
Et il y a d'autres messages qui sont arrivés. Alors, quelqu'un qui se fâche et qui dit « Il ne faut pas délivrer de faux messages. Les traitements sont lourds, certes, mais permettent de diminuer les poussées et les espacer. » Oui, mais chacun est libre aussi de gérer son traitement avec son médecin comme il le veut.
Merci.
On n'est pas en train de dire que... C'est marrant, comme les gens ont toujours l'impression quand on donne son avis, on est catégorique. Non, on ne dit pas « il faut » ou « il ne faut pas », on dit « moi, j'ai envie de gérer les choses autrement ».
Depuis le début, je dis « ceci est mon avis, ceci est mon vécu ».
Bien sûr. Et je comprends tout à fait ça. Et c'est chacun doit trouver ce qui lui convient le mieux, l'équilibre qui lui convient le mieux, entre certains traitements possibles, certains effets secondaires insoutenables, et trouver son propre équilibre. De toute façon, il n'y a jamais une maladie. Chacun développe, même si ce sont les mêmes maladies, chacun les développe de manière très différente. Surtout ce genre de maladie neurologique.
Vous disiez hier très intelligemment que, bizarrement, les maladies se déclenchent à l'issue
d'un choc émotionnel.
Je ne vais pas en parler ici, mais effectivement, la multitude de chocs émotionnels depuis l'enfance, d'abandon, de déménagement depuis la plus tendre enfance, parce que voilà, abandon de la mère, parce que remariage du père, parce que prosélytisme dans une secte qui fait qu'on change énormément, parce que multitude d'escales fait que de toute façon le changement est dans ma nature, mais que pour le coup, nerveusement et physiquement, c'est pénible, et surtout quand les gens ne reconnaissent pas que vous marchez sur l'eau, littéralement.
Ouais. Il y a énormément de messages qui arrivent, Monique, je crois que vous avez touché beaucoup de gens. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, je pense que le bon neurologue, vous allez le trouver dans pas longtemps. Merci. Et je vais vous laisser gérer ça hors antenne avec Amandine. Il y a plusieurs autres personnes qui proposent, d'abord qui vous souhaitent bon courage, qui sont tout cœur avec vous et qui proposent d'échanger avec vous par téléphone en dehors de l'émission. Donc si vous le permettez, on vous communiquera leurs coordonnées.
Merci.
Pour que vous puissiez peut-être avoir un réseau de gens qui vont petit à petit. Vous savez, c'est un pas après l'autre et une porte qui s'ouvre, on ouvre une autre.
Oui, ça je comprends très bien.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous aider en attendant que vous ayez un logement ?
J'avoue que depuis hier soir, je repasse cette conversation que j'ai eue avec vous pour justement me garder la tête haute. Mmh. Je sais que rien n'est facile, mais qu'il faut chercher les ressources et savoir les exploiter, comme cette conversation de ce soir. Que ça aboutisse ou pas, je pense que mon subconscient a entendu mon ressenti, votre écoute, et que forcément...
Quelque chose de positif va en sortir.
Quoi que ce soit.
Eh bien, j'en suis persuadée, Monique, persuadée. On va en rester là, parce qu'en fait, vous allez avoir un petit peu de travail avec Amandine, il y a beaucoup de messages pour vous.
Merci beaucoup.
Donc je vais vous la passer, elle va vous transmettre les coordonnées. Vous allez voir ça avec elle. Vous allez voir ça avec elle. Et puis les coordonnées de tous les gens qui vous ont appelé, qui souhaitent rester en contact avec vous maintenant. Et moi, je me permets de vous envoyer plein de lumière, encore plus cette lumière qui va éclairer votre chemin dans les années à venir, de plus en plus, et vous donner la force de tenir debout malgré tout.
Merci infiniment, Sabine.
Et puis j'aimerais bien de vos bonnes nouvelles dans pas longtemps, que vous serez installée dans un appartement où vous êtes bien, hein, que vous aurez trouvé un neurologue qui vous accompagne sur ce bon chemin-là. Vous me rappelez pour me raconter ?
Avec plaisir, évidemment.
Merci beaucoup, Monique. Je vous embrasse très, très fort. Surtout, ne raccrochez pas. Hein.
Merci.
Merci à vous. Au revoir. Et c'est maintenant Brigitte que j'accueille sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Brigitte.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, bienvenue. Je suis un peu émotive de passer à l'antenne.
Tout va bien. Quelle est votre histoire alors, Brigitte ?
Voilà, moi j'ai fait un burn-out il y a 9 ans. J'ai travaillé en tant que directrice de marketing dans une grosse boîte financière. Et j'ai fait un burn-out il y a 9 ans. Mm-hmm. J'ai sombré dans la dépression profonde. Et là, j'arrive à peine à m'en sortir de la tête de l'eau. Et pendant cette période de dépression, il est apparu des symptômes comme l'agoraphobie. C'est-à-dire que je ne peux plus sortir de chez moi.
Oui.
Et là-dessus, j'aimerais vous m'aider.
C'est pas moi qui vais pouvoir vous aider, c'est un thérapeute. Il faut vous faire accompagner là-dessus. Les phobies, ça se soigne, ça se travaille.
Ben oui, je vois un psychiatre une fois par mois, une psychologue une fois par semaine. Mais ça ne mène pas grand-chose, malheureusement.
Alors, on va déjà décortiquer un peu, si je puis dire, cette dépression. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce que vous avez changé de métier depuis, quitté ce travail-là ? Comment ça se passe ?
J'ai quitté ce travail-là et depuis, je n'en travaille plus, je suis en invalidité.
À cause de ce burn-out ?
Oui. J'ai été pendant 3 ans en arrêt maladie et au bout de 3 ans, je suis tombée en invalidité.
Vous n'avez pas réussi à remonter la pente. De toute façon, quelque chose me dit que vous n'aviez pas envie non plus de reprendre ce travail-là, j'imagine. De vous remettre dans les mêmes conditions qui auraient déclenché les mêmes conséquences.
Non, non. Je ne voulais sûrement pas reprendre le même travail. Non, ça c'est certain.
Mais est-ce que vous auriez envie, vous, de vous diriger vers autre chose maintenant, dans cette nouvelle partie de votre vie ?
Bah oui, j'ai fait un bilan de compétences il y a... Pôle emploi m'avait dirigé vers auxiliaire de vie. C'est ce qui me paraissait le mieux adapté. Oui. Parce qu'entre-temps, j'ai eu un deuil, le deuil de mon ami, une crise cardiaque et ça m'a totalement anéanti. J'ai rien pu construire de ma vie professionnelle, rien pu suivre.
Vous êtes sous traitement en ce moment ?
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous ressentez un mieux-être avec ce traitement ?
Ah oui, oui.
D'accord, donc ça, c'est important. Oui,
oui. J'arrive à dormir, ce qui est une chose chez moi presque miraculeuse, parce que je ne dormais plus. Mm-hmm. Je n'arrivais plus à dormir, je me réveillais toutes les heures. Et j'étais debout à 3h30. Là, j'arrive à dormir jusqu'à 6h le matin, donc c'est bien. Je suis content. Ouais.
C'est important, c'est pendant le sommeil que le cerveau se régénère aussi.
Ah oui.
Et donc, cette agoraphobie vous empêche de faire quoi ? Est-ce que vous arrivez quand même, par exemple, à aller vous promener en forêt quand vous êtes seul et qu'il y a, c'est du calme ?
Non, non, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas sortir de chez moi. Je ne peux pas ouvrir le verrou de ma porte.
Comment est-ce que vous voyez vos thérapeutes alors ?
C'est un VHS, c'est un taxi qui vient me chercher et qui m'emmène au CMP pour voir mon thérapeute.
Donc vous pouvez sortir de chez vous à ce moment-là ?
Oui, parce que je suis prise en charge.
D'accord. Donc le vrai problème, c'est pas de sortir de chez vous, c'est de sortir de chez vous seule.
Oui, on peut dire ça, oui.
Et vous savez que toutes les phobies, c'est une mauvaise interprétation du cerveau, parce que dans la réalité, il n'y a aucun danger. C'est juste que vous êtes en alerte rouge. Comme si, c'est comme si quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui monte dans un ascenseur et qui est coincé et qui se met en mode panique et qui se dit « Ah, je vais mourir ». Non, non, un ascenseur, ça coulisse, il y a de l'air, on ne va pas mourir. Mais on se met tellement dans ce mode-là qu'on finit par faire un malaise.
Oui,
alors que concrètement, il ne se passe rien du tout, ça n'est que de l'émotionnel. Donc, ça se travaille, ça. Ça n'est qu'une mauvaise interprétation de l'esprit, si vous voulez. Une partie de votre cerveau se met en mode panique alors qu'il n'y a aucun danger. C'est comme si le curseur était toujours dans le rouge chez vous.
Oui, c'est vrai. Mais je sais que dès que j'ouvre le verrou de ma porte, j'ai des nausées, j'ai des sueurs, j'ai des sueurs, enfin, je vais pas bien du tout. Quoi.
C'est l'interprétation physique d'une grosse angoisse.
Oui, oui, je pense. Oui.
Parce que concrètement, il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le danger, il est à l'intérieur de vous. C'est la peur, l'angoisse. Et ça, ça devrait pouvoir se travailler en thérapie.
Oui, ça devrait.
C'est pour ça que ce qui m'ennuie un peu, c'est que ça fait combien de temps, vous me dites, que vous êtes suivie ?
9 ans.
Bon. Et en 9 ans, ça ne s'améliore pas du tout ? Vous percevez quand même un léger mieux dans certains domaines ?
Dans certains domaines, je reçois un léger mieux.
Alors, qu'est-ce qui va mieux, par exemple ?
Ben, j'arrive à sortir de chez moi pour aller faire mes courses à pied ou aller chez mon boulanger. Voilà, ah. Ça, c'est beaucoup mieux. Chose que je n'arrivais pas à faire avant.
D'accord, donc vous arrivez déjà à ça, c'est déjà un premier point intéressant. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui comprend maintenant qu'on peut sortir pour aller faire une petite course et être en sécurité.
Je ne sais même pas si c'est de l'insécurité que j'ai. C'est des nausées, c'est j'ai peur de sortir.
Oui, c'est de l'angoisse, c'est ça.
Oui.
Est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'aller faire un petit des promenades dans la nature, mais avec quelqu'un ?
Ah oui, ça c'est possible par contre.
Parce que vous savez, entre une heure passée sur le canapé à rien faire et une heure de promenade en forêt, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que dans le premier cas, on aggrave la situation et dans le deuxième cas, petit à petit, on l'améliore. Aller oxygéner son cerveau, c'est tout simple. Et petit à petit, c'est un pas après l'autre qu'on avance dans ces situations-là. Et simplement, si quelqu'un peut vous accompagner, ne serait-ce qu'au début, un quart d'heure. Et puis si ça vous fait du bien, une demi-heure, vous promenez en forêt, reprendre cette énergie-là, ce calme. Reprendre plaisir à sortir dans des conditions agréables. Et en étant accompagné par quelqu'un, je pense que ça pourrait vous apaiser, ça.
Oui, je pense aussi, j'ai déjà fait. Hein.
Et alors ?
Ça me génère des angoisses.
Et alors, si vous aimez bien, il faut continuer à le faire. C'est en faisant des petites choses qu'on aime bien, les unes après les autres, qu'on remonte la pente.
D'accord.
Même si des fois, il faut se forcer un tout petit peu, c'est se dire, voilà, soit je reste là sur mon canapé à regarder la télé ou à regarder la fenêtre, soit je me dis qu'allez, pendant une demi-heure, je vais marcher. Juste ça. Et petit à petit, ça permet au cerveau de se réoxygéner, ce qui était extrêmement important. Et ça calme, c'est connu pour calmer la dépression aussi.
Mais ça, j'ai du mal.
Faire des choses qui font plaisir. Oui. Même si sur le moment, on se dit, bon, c'est bien, mais ça n'a pas changé ma vie, c'est vrai. Mais à long terme, quand on répète ces petites choses-là, ça fait du bien.
Oui, c'est vrai. C'est très vrai.
Est-ce que vous avez des amis qui seraient prêtes à venir vous prendre un peu par la main et vous dire « Allez, viens, on sort une demi-heure, on va faire un tour en forêt ?»
Non, j'ai perdu tous mes amis.
Est-ce que vous connaissez un peu vos voisins ? Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, une assistante sociale dans votre quartier, des associations ?
Mais disons qu'il y a 2 personnes sur qui je peux compter, et ça signifie ça.
Ah, je vous perds un peu, Brigitte. Pardonnez-moi, on va devoir faire une coupure le temps des infos. Je vous récupère juste après, d'accord ?
D'accord.
Merci beaucoup, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
De la nuit sur Europe 1, au cœur de cette libre antenne qui vous accueille chaque nuit jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à prendre la parole en nous appelant 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir. Pour participer par SMS, je vous rappelle que vous faites le 739-21 en commençant par le mot nuit et puis il vous reste aussi les mails libreantenne@europe1.fr.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Alors nous avons dû raccrocher avec Brigitte car la communication était trop mauvaise, vous avez été très nombreux à vous plaindre de ne pas entendre, de ne pas comprendre ce qu'elle disait. Et du coup on a Bernard qui appelle pour réagir aussi à propos du burn-out. Vous êtes là Bernard ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous. Je vous écoute.
D'abord je voulais vous dire que j'adore votre émission, vous êtes super.
Merci, c'est gentil.
Moi je voulais dire que j'avais fait un burn-out il y a 5 ans. Donc j'allais vraiment, j'ai failli être hospitalisé.
Dans quel contexte ? Racontez-moi un peu le contexte à ce moment-là.
Au niveau travail.
Oui, quel type de travail vous faisiez ?
Moi, j'étais gérant de magasin.
Gérant de
prêt-à-porter.
Ah, d'accord.
De magasin de prêt-à-porter.
Ok, donc beaucoup de pression, j'imagine ?
Beaucoup de pression, énormément de pression. Voilà.
Jusqu'à ce que le corps lâche, quoi.
Voilà, jusqu'à que le corps lâche, les pompiers m'amènent, viennent me chercher au magasin pour m'amener à l'hôpital.
Donc, ah, vous êtes carrément écroulé.
Ah oui, carrément.
Mm-hmm. C'était la première fois.
Carrément. C'était la première fois, oui.
Comment est-ce que vous avez vécu ça ?
Très mal, très très mal. Mm-hmm. Vis-à-vis de ma femme, mes enfants, très très mal.
Mais on se culpabilise surtout beaucoup dans ces cas-là, en plus.
Oui, ouais. Oui, surtout que ma femme est venue me chercher au travail pendant que les pompiers essayaient de me raisonner. C'est horrible, quoi.
Ouais, on voudrait être fort et on n'y arrive plus.
Non, exactement. Le corps, il lâche complètement.
Ouais. Et alors la suite, comment ça s'est passé ?
Eh ben donc je suis parti donc à l'hôpital, donc pas très loin de mon travail, les pompiers m'ont amené, donc et ensuite donc j'ai été donc examiné par un médecin donc et j'avais des idées noires et tout ça quoi donc. Et elle n'a pas voulu, le médecin, donc m'en garder jusqu'au soir, jusqu'à qu'il trouve un hôpital qui pouvait me prendre en urgence psychiatrique. Mmh. Et donc ma femme étant en voiture, elle n'a pas pu m'amener, il a fait qu'une ambulance vienne à l'hôpital.
Oui, c'est la loi, hein, ils sont obligés de faire ça.
Voilà, pour m'amener donc à l'hôpital, donc qui n'était pas très loin de chez moi en fait, cet hôpital, donc... Et donc j'ai vu donc en présence de ma femme, hein, le médecin m'a dit si vous voulez que votre femme assiste. J'ai dit il n'y a pas de problème, elle peut assister. Donc elle a assisté à notre entretien. Mmh. Et le médecin m'a dit que le psychiatre m'a dit que j'étais vraiment à la limite de l'hospitalisation, qui devait m'arrêter pour le travail. Je ne voulais pas moi parce que bon, je suis quelqu'un d'assez impliqué dans mon travail.
Et pour vous, c'était presque inimaginable, ça.
Voilà, c'était inimaginable. Donc, il m'a dit, sinon, si vous ne vous arrêtez pas, je vous mets direct en hospitalisation. Donc, à la suite de ça, j'ai accepté. Il m'a dit, est-ce que pour être suivi dans un CMP. Donc, je suis parti au CMP de ma ville. Ça n'a pas amélioré. Le fait de voir le psychiatre du CMP, ça n'a pas amélioré. Mmh. Et donc, je suis reparti voir mon médecin traitant. Et là, j'ai vraiment... je me suis effondré sur mon médecin traitant. Et il m'a dit, sur ses conseils, je suis parti voir un psychiatre dans une ville proche de chez moi.
Mmh.
Et là, bon, ça a été dur au début parce que, bon, un psychiatre, entre guillemets, c'est un médecin... il nous entend, il nous écoute, mais comment expliquer, j'arrive pas à expliquer. Et donc ça a été dur au début parce que bon, je la trouvais un peu bizarre, quoi. Voilà,
vous aviez peut-être besoin qu'on vous prenne un peu plus par la main plutôt que juste on vous dise parler, quoi.
Voilà, ouais, peut-être, oui, peut-être. Bon, moi, elle a eu beaucoup de mal à trouver le traitement avec moi. Beaucoup de mal. Ça a été plus long parce qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver un bon traitement.
Le bon équilibre, oui.
Le bon équilibre, exactement. Mmh. Et donc, jusqu'à qu'un jour, je fasse une crise carrément chez elle, quoi. Et là, elle a pris conscience. Donc, elle n'a pas voulu... Je suis quelqu'un qui circule beaucoup en moto, donc... Elle m'a dit qu'il y a hors de question pour prendre la moto. La pharmacie qui est en bas a ramené à monter un Xanax pour me calmer. Mmh. Et à la suite de ça, elle a essayé de réadapter. Donc, je suis parti la revoir. Elle a essayé de réadapter le traitement. Et au bout du troisième traitement, c'était le bon. Et là, vraiment, je respire. Je kiffe la vie, quoi, entre guillemets. Voilà. Je suis toujours sous antidépresseur, plus anxiolytique.
Oui.
Mais je suis toujours sur antidépresseur. Je la vois à peu près une fois par mois, mais vraiment, elle est super, quoi. C'est-à-dire, chez elle, c'est elle vous donne son numéro personnel.
Ah, c'est chouette.
Voilà, c'est très chouette. Elle est proche de vous.
Voilà, quelqu'un qui vous a sorti du trou.
Ah oui, vraiment, oui. Vraiment.
C'est pour ça que souvent, vraiment, je dis, c'est pas du tout une question de thérapie. C'est une question de thérapeute. Quel que soit le chemin qu'on prend, c'est la personne qu'on rencontre. Et les médecins, c'est pareil. Il y a des gens formidables parmi les médecins, il y a des gens qui le sont moins. Et dans toutes les thérapies, il y a des gens extraordinaires, exceptionnels, et puis d'autres, malheureusement, qui sont pas au niveau, ou alors avec qui ça ne matche pas, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi.
Ça m'est arrivé d'une fois de partir après, quand j'avais repris le boulot, tout ça, de prendre rendez-vous avec elle un soir. Et ça m'est arrivé de sortir à 1h du matin de chez elle, quoi.
Elle prenait vraiment le temps.
Et il y avait du monde derrière, quoi. Ouais. Et il y avait des personnes qui arrivaient en urgence, elle les prenait avant, quoi. Elle est vraiment... J'ai conseillé à la sœur de ma belle-sœur qui avait fait une dépression d'aller la voir. Mmh. Et elle aussi, elle s'en est sortie.
Ouais, c'est formidable. Ça fait du bien d'entendre qu'il y a des thérapeutes qui prennent le temps, vraiment, et qui prennent en considération chaque personne pour ce qu'elle est.
Elle vous donne son numéro, vous pouvez l'appeler quand vous voulez.
Ouais, c'est un vrai soutien, ça.
Ouais, c'est un vrai, vraiment soutien. Un vrai, vrai soutien.
Et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de continuer à discuter avec Brigitte parce que vraiment, on l'entendait très très mal. Mais est-ce que vous avez essayé aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, l'EFT? Il y a quelqu'un qui m'envoie un SMS pour parler de ça. Vous connaissez un petit peu?
Non, pas du tout.
EFT, c'est ce qu'on appelle l'Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Ça se fait en tapotant en fait, sur différents méridiens. Et c'est une technique qui permet vraiment d'aller assez rapidement vers un apaisement. La cohérence cardiaque, c'est pareil, ça aide à gérer les crises d'angoisse. Mmh. Demandez-lui à votre thérapeute, elle doit forcément connaître ça. Mmh. Mmh. Même si elle ne le pratique pas, elle doit connaître des gens qui le font. Et c'est vraiment aussi, ce sont des techniques assez intéressantes quand on est en dépression. Bien que là, j'entends que ça va quand même beaucoup mieux. Quelle décision vous avez prise au niveau professionnel d'ailleurs? Est-ce que vous avez tout refait à l'identique ou est-ce que vous avez changé des choses?
Non, j'ai changé.
Ah,
j'ai changé.
Très bien.
J'ai changé. Je prends moins les choses à cœur.
Oui, parce que vous savez que la dépression vient nous dire quelque chose. Vient nous dire, attention, il y a une partie de ta vie que tu ne respectes pas. Et si vous faites tout à l'identique, eh bien les mêmes causes produiront exactement les mêmes effets.
Oh oui, non. Non, maintenant j'ai plaisir d'aller au travail, c'est autre chose.
Bon.
C'est autre chose.
Et comment est-ce que vous avez traversé ce burn-out avec votre épouse?
Difficilement, très difficilement.
Ouais. C'est tellement invisible que c'est compliqué à partager.
Oui, c'est très compliqué. Très, très compliqué.
Mais elle est toujours là aujourd'hui à vos côtés?
Ah oui, toujours là. Toujours là.
Donc votre couple a résisté à ça?
Mon couple a résisté à ça, mais bon, actuellement, c'est pour une autre raison qu'il a un petit peu basculé. Enfin, on est toujours ensemble. Hein. Mmh. En fait, j'ai énormément de ronflements. Je suis parti voir un ORL et là, ça l'agace, quoi.
Ah.
Je ronfle beaucoup. Je ronfle beaucoup.
Le problème, c'est que c'est épuisant de dormir avec un ronfleur.
Oui.
On perd. Non, mais ça fait rire toujours, mais on perd le sommeil et c'est vrai que ça rend fou. Hein. Il n'y a pas moyen que vous puissiez dormir sur le canapé ou qu'elle puisse passer de temps en temps des nuits plus calmes?
C'est ce que je fais. C'est ce que je fais.
Pour la préserver un petit peu.
Ouais, donc là, je suis parti voir un ORL, donc elle m'a mis un appareil pour mesurer le sommeil, s'il n'y avait pas une apnée du sommeil, en fait. Mmh. Bon, il s'avère que, vous savez, c'est un appareil, vous devez connaître cet appareil, qui mesure et vous l'accroche pour la journée, et il se déclenche le soir automatiquement quand vous dormez. Mmh. Et voilà, donc je lui ai ramené donc, pour qu'elle étudie le problème, et en fait, il n'y a pas d'apnée du sommeil. Donc, elle m'a donné un traitement que je n'ai pas pris encore. Voilà, c'est de ma faute.
Oui, ça, c'est pas cool. Pour elle, c'est pas cool.
Ouais. Non, c'est pas cool.
Maintenant, il y a autre chose. Est-ce qu'elle a, j'imagine qu'elle a essayé les bouchons d'oreilles ?
Non, c'est quoi ça ?
Bah, vous savez, ce que les, alors, y a justement, c'est ce que je voulais lui conseiller, c'est un petit truc. Il y a les bouchons d'oreilles classiques. Vous savez, c'est des trucs qu'on se met dans les oreilles en mousse et qui coupent les bruits extérieurs. Le problème, c'est que ça fait mal aux oreilles au bout d'un moment. Et que je sais que beaucoup de gens ne les supportent pas, parce que quelquefois on entend son propre cœur battre à l'intérieur quand on met ça, et que ça peut irriter les oreilles. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est les boutiques qui font des appareils auditifs peuvent vous proposer de faire des bouchons d'oreilles sur mesure en silicone, qui sont adaptés exactement au conduit de votre oreille, c'est très doux, et ça coupe tout le bruit, pas, peut-être pas tout à 100%, mais ça coupe beaucoup les bruits extérieurs, et c'est très intéressant quand on dort avec un gros ronfleur. Alors ça coûte un peu de sous, je crois que c'est de l'ordre de 50 à 80 euros, mais c'est sur mesure. C'est vos bouchons d'oreille à vous, et ça permet vraiment de s'isoler pour dormir tranquille, et ça les vaut, parce que ça permet quand même de restaurer un bon sommeil, quoi. Ça évite les scènes de ménage.
D'accord, mais c'est moi qui les mets les bouchons.
Non, c'est elle qui les met, pour pas vous entendre ronfler.
Ah d'accord, ok.
Il faut qu'elle se fasse faire ça sur mesure, chez un, je vous dis, toutes les boutiques qui s'occupent des appareils auditifs, pour les gens qui ont des problèmes d'audition. Ils vous proposent de vous faire des petits bouchons en silicone sur mesure, elle se met ça dans les oreilles le soir, et elle n'entend plus rien.
Ah ouais, d'accord.
Et c'est confortable, parce que ceux qui sont communs en mousse qu'on prend dans les pharmacies, au bout d'un moment, ils font très mal aux oreilles. Beaucoup de gens ne les supportent pas, et donc ça ne dure pas longtemps. Alors que la version sur mesure et en silicone, c'est très confort.
Ah ben d'accord, moi je vais lui dire.
Amandine se moque de moi en disant « ça sent le vécu ». Oui, j'avoue que ça sent le vécu. Et que les bouchons d'oreilles m'ont évité bien des scènes de ménage. Non, c'est important. Ah bah c'est important le sommeil. Hein. Vous savez que ça rend fou quand on dort pas. Donc, je peux comprendre aussi.
C'est clair. Elle est enseignante, donc elle a des élèves. Elle doit bien dormir, quoi.
Oui. Puis, ça serait quand même dommage d'avoir survécu un burn-out et d'être séparée par un ronflement, quand même.
Oui, c'est vrai.
Bah, oui.
C'est un peu paradoxal.
Donc, Bernard, quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui aux gens qui traversent des périodes comme ça épouvantables à cause du boulot ?
Essayez de changer. C'est vrai qu'on n'est pas dans une conjoncture super, mais il faut qu'il change.
Qu'est-ce que vous appelez changer ? Changer ce qu'on est ou changer ce qu'on fait ?
Changer ce qu'on fait de patron, quoi, d'entreprise. Garder ce qu'on fait, oui. Moi, la vérité, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un patron qui m'a soutenu, qui est dépressif aussi, qui a été dépressif, et qui est toujours d'ailleurs. Il veut pas se soigner.
Vous allez fonder un club, hein ?
Non, mais... c'est lui qui m'a. En fait, c'est un peu lui qui m'a. Bon, avec son stress et son. Donc, et je lui ai dit d'aller voir. Je lui ai dit, j'ai un très bon psychiatre, vous voulez pas aller le voir ? En fait, voilà. En fait, bon, moi j'ai changé finalement de. Pas de patron, mais de société, parce qu'il a plusieurs sociétés, mon patron. Mmh. Et là, maintenant, je fais du commercial. J'adore ce que je fais, quoi.
Ouais.
J'adore ce que je fais.
Ouais, c'est extrêmement important ce que vous dites. Il me semble essentiel quand on fait une dépression de comprendre que cette dépression, elle vient dire quelque chose.
Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un message.
Et que quand on est capable de l'écouter, de le comprendre, on change des choses et après on redémarre. Alors c'est pas forcément instantané, mais vous allez beaucoup mieux là aujourd'hui.
Ah oui, je vais beaucoup mieux. Et moi, je suis quelqu'un d'assez entier, donc qui prend les choses à cœur. Mmh. Et j'étais aussi un peu timide. Donc, et là, ça a vraiment changé ma vie, quoi. C'est-à-dire que je vais plus facilement vers les gens, beaucoup plus facilement. Ouais.
Vous savez, l'image que j'ai, c'est quand on a une dépression, c'est qu'on est à la dérive, on n'est plus dans l'axe de qui on est vraiment.
Absolument.
On s'est laissé déporter et d'un seul coup, quand on se soigne, on revient, on redevient soi-même ce qu'on est vraiment. Quand on se respecte vraiment et les choses vont mieux comme par hasard, vous vous ouvrez aussi aux autres là.
Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair.
Et petit, c'est clair. Petit à petit, vous diminuerez le traitement, puis vous l'arrêterez complètement et vous redémarrez vraiment à fond, quoi.
Voilà, parce qu'il ne faut pas, paraît-il, qu'il ne faut pas arrêter comme ça.
Jamais, quoi. C'est toujours par étapes. Et là, vous êtes très bien accompagné, donc je ne me fais pas de soucis pour vous.
Oui, oui, non, c'est vraiment, elle est vraiment super, hein. Je peux la conseiller, elle est vraiment, vraiment super.
Ben, ça, c'est formidable. Merci Bernard pour ce témoignage positif.
Je vous en prie.
Ça fait du bien.
Et bravo encore pour votre émission, elle est vraiment super.
C'est gentil, je vous embrasse Bernard.
Merci, au revoir.
Au revoir, bonne nuit, sans trop de ronflement.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté, je sais que vous attendez depuis le début de l'émission.
C'est pas grave. Bien. J'attends, j'ai entendu des choses intéressantes.
D'où vient cette voix? À mon avis, vient du sud-ouest, du sud-est, votre accent en chantant.
Hein. Je suis marseillaise.
Oui, ça sent un petit peu, ça fait du bien ce soleil dans la voix.
Oui, tout à fait, oui. Si je l'avais dans le cœur aussi, ce serait bien.
Alors racontez-moi ce qui vous arrive.
J'ai 62 ans, j'ai découvert cet été que mon mari avait une liaison depuis 3 ans.
Ah.
Avec une maîtresse, et depuis, depuis le 17 décembre, il a quitté la maison, il a pris un studio, et voilà, je suis désemparée. J'ai vu psy, je vois psy, psychologue, j'ai un traitement antidépresseur, et je n'arrive pas à me sortir tout ça de la tête, je n'arrive pas à me sortir mon mari de la tête.
Alors, vous étiez mariée depuis combien de temps ?
34 ans.
Est-ce que ça allait à peu près, ou est-ce qu'il y avait quand même des problèmes ?
Non, il n'y avait pas de problème. Déjà, je vais vous le décrire, c'était un homme taisé, ne parle jamais. Les problèmes, quand il y en avait, c'était toujours moi qui mettais les choses sur le plat. Donc, il fallait toujours que ce soit moi qui amène les conversations pour tout, au sujet des enfants, pas entre nous deux, parce que ça allait bien. Mais apparemment, en 2015, il s'est détaché de moi et il a été subjugué par cette femme. Donc, il a tout fait pour pouvoir sortir avec elle. Donc, et pendant 3 ans, je ne m'en suis pas aperçue. Je me rendais compte qu'il se détachait de moi. Et moins de tendresse et moins affectueux avec moi.
Mm-hmm.
Jusqu'à ce que, là, cette année, des choses qui n'allaient pas, quoi. Et j'ai trouvé un relevé de compte au mois de juillet. J'ai vu qu'il y avait des achats pour une personne qui n'était pas pour moi, pour une femme qui n'était pas pour moi. Donc,
comment vous avez fait le lien, par exemple?
C'est-à-dire, j'ai vu des dates de restaurant, des jours où je travaillais, donc des jours où j'ai vu des produits Eline qui n'étaient pas pour moi, des vêtements de marque de femme, des produits de beauté aussi qui n'avaient pas acheté pour moi, se sont relevés les cartes bleues, donc j'ai bien compris que c'était pour quelqu'un d'autre.
Et comment vous avez fait pour lui en parler?
Mais j'ai attendu le soir, je lui ai demandé, j'ai dit, je voudrais savoir ce que c'est que ces achats sur ce relevé de compte, là, il m'a fait celui qui regardait, il me faisait l'air de dire que c'était pas lui.
Ah.
Alors, je lui ai dit, comment t'as trouvé ta carte bleue? Bon, il a fini par me dire, au bout d'un moment, qu'il aidait quelqu'un dans le besoin. J'ai dit, comment on a trouvé que toi pour aider quelqu'un dans le besoin? Et finalement, il m'a avoué que c'était une copine, mais qu'il n'avait pas de rapport avec elle. Enfin, bon, à partir de là, que des mensonges.
Oui, il n'a pas assumé du tout. Hein.
Du tout. Même maintenant, je le vois, si je lui pose des questions, il est incapable de répondre à mes questions. Incapable.
Bah, il n'a pas envie, en fait.
Il n'a pas envie. Je pense qu'il est parti pour rester, donc du coup, pour rester tout seul, et il s'est pris un studio. Là, il me paye le loyer, tout ça, où je suis restée dans l'appartement, donc je suis avec ma fille qui est revenue de chez moi. Et il vit tout seul dans son studio.
Il n'est même pas parti vivre avec elle?
Non, il n'est pas parti avec la femme, non. Parce qu'elle n'en voulait pas de lui.
Ah oui.
Au départ, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, quand je posais des questions au début, qui c'était, il me dit, tu la connais pas, tu es une cliente de l'agence, parce qu'il est employé de banque. Et il m'a dit, j'ai été patient pour la voir. Il l'a connue en décembre 2014, et il est sorti avec elle en juillet 2015. Et donc il m'a dit, j'ai été très patient. Déjà, il me parlait comme s'il parlait à une amie. Il ne parlait pas à sa femme.
Ouais.
Et j'ai réussi à le faire parler, parce qu'il ne voulait rien me dire. Donc il a dilapidé une assurance vie pour cette femme, il lui a acheté des cadeaux en permanence. Moi, il m'a complètement occulté. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, jusqu'à ce que cet été, là, au mois de mai, j'ai vu cette année, il m'a acheté 4 roses la veille de la fête des mères, alors que chaque année, le jour de la fête des mères, il me faisait un cadeau, même si j'étais pas sa mère, c'était la mère de ses enfants. Mais là, cette année, rien du tout. Là, il y a beaucoup de choses qui ont occulté, quoi.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'il a trouvé chez elle? Qu'est-ce qu'il est allé chercher chez elle?
J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas parce que ma vie, c'était une attirance, voilà. Bon, évidemment, j'ai posé des questions intimes, comme font toutes les femmes, ce qu'on ne devrait pas faire, mais ça ne lui a pas plu. Mais je n'ai pas su. Je crois qu'il en est tombé amoureux. Il était accro à cette femme. Il ne la voyait pas souvent. Mais le peu qu'il la voyait, pour lui, c'était des distractions. C'est-à-dire, il rentrait tous les soirs, il était tous les week-ends avec moi, mais parce qu'elle ne voulait personne. Elle a un compagnon. D'après ce qu'il m'a dit, elle a un compagnon. Elle n'est pas divorcée non plus. Donc, elle ne voulait pas d'embrouille.
Ouais.
Une femme de 60 ans qui n'est pas jeune non plus, bon, moi j'ai 62 ans. Il est plus jeune que moi, il a 58 ans. Donc, elle ne voulait pas de lui à la maison. Donc, tous les soirs, il rentrait, c'est comme ça que ça a pu durer 3 ans parce qu'il arrivait comme s'il travaillait. Quoi.
Ouais.
Il m'a fait ça pendant 3 ans. Et le week-end, elle voyait sa famille et ses amis, mais lui, non. Lui, il prenait de temps en temps des jours de congé, il faisait croire qu'il allait travailler. Et en fin de compte, il allait se balader avec elle, il lui payait des restos, il faisait des cadeaux, jusqu'au jour où un jour ma fille a rencontré au resto avec cette femme.
Ah oui.
Et là, ma fille, elle m'a rien dit, donc ça c'était en 2017 avant que notre petit-fils naisse. Ils se sont mis d'accord avec, c'est-à-dire mes deux enfants et leur père. Pour ne rien me dire, il a juré grand Dieu à ses enfants qu'il arrêtait cette relation avec cette femme, et donc finalement il a repris 3 semaines après. Jusqu'à ce que je le découvre, moi, cet été, jusqu'à ce que je lui mette ça sous le nez, quoi.
Et qui a décidé voilà. Qu'il parte s'installer dans un studio?
Lui tout seul.
Lui tout seul.
Il me disait, j'ai dans l'idée de partir. Et, alors, au départ, c'était, je ne veux pas te perdre, je ne voulais pas te perdre, c'est pour ça que je suis partie. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas parlé. Si tu m'as dit, je me suis détachée de toi, c'est pour ça que j'étais attirée par elle. J'ai dit, alors, on n'est pas des animaux, il fallait parler. Tu me parlais, tu me disais que ça n'allait plus, que ça on aurait pu s'arrêter 3 ans en arrière ou essayer de raviver les choses plutôt que de faire une chose comme ça aussi dégueulasse.
Ouais.
Sans compter tout ce qu'il a fait à côté, quoi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, une assurance vie qui lui tombe du ciel, nous ne sommes pas des gens qui sommes très aisés. Une assurance vie qui lui tombe du ciel d'un oncle décédé, on devait faire des tas de choses, et il a tout dépensé pour cette femme, il a refait les choses chez elle et tout, il a fait des cadeaux tous les mois, rien que le mois de juillet où j'ai trouvé son relevé de compte, il avait au mieux 300 euros rien que pour elle. Quoi.
Mmh.
Et s'il a fait ça pendant les 3 ans, je pense que l'assurance vie y est passée. Mais il a dû aussi thésauriser de son côté parce que là, il a pu se prendre un studio, il payait le loyer ici, il s'est pris un studio, il s'est acheté des canapés. Enfin, il est à l'aise alors que nous, moi, je croyais qu'on était dans la... Moi, je faisais attention à tout parce qu'on avait toujours peur de manquer quelque chose.
Ouais, donc pour vous, voilà. c'est une double trahison. Hein.
Ah oui, une trahison, comme je dis. Moi, je lui pardonne, mais je dis, bon, tu as fait une erreur, je te pardonne, je te reprends, tu restes. Non, mais je ne peux pas, je n'arrive pas à me forcer à rester avec toi, je ne veux pas te mentir, je ne veux plus te mentir, alors je ne sais pas. Son mensonge, c'est est-ce qu'il la voit toujours, est-ce qu'il la voit pas?
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'elle voilà. l'a quittée là maintenant ou pas? Vous ne savez pas?
Je ne sais pas. Elle m'avait envoyé un texto comme quoi elle en avait marre de son harcèlement. Et parce que j'avais trouvé son numéro de téléphone, mais j'ai jamais pu lui faire dire où elle habitait ni son nom, mon mari. Il n'a jamais voulu me le dire. Et du coup, je ne peux pas savoir s'il est mort encore ou pas. Je ne sais pas du tout.
Mais vous avez été en contact avec elle, là? Vous êtes en train de me dire que vous lui avez envoyé des textos à elle, à cette femme?
Oui, je lui ai envoyé un texto.
Pour dire
fois,
quoi?
Pour savoir. Pour savoir si elle était toujours avec lui. Et elle m'a. Et lui me disait qu'il ne la voyait plus, mais en fin de compte, cet été, quand je savais du jour où j'ai su. Je pensais qu'il continuait de l'appeler pour la voir, malgré la situation, en sachant que je ne savais. Cette femme m'a répondu un jour, elle m'a dit, j'ai vu, votre mari a dû vous dire que je l'ai vu pour qu'il arrête son harcèlement, qu'il n'est plus tolérable, voilà. Je ne le verrai plus. Je suis désolée de la peine que ça a causé. Voilà. Bon, mais moi, je la connais pas. Je suis aussi menteuse que lui, donc je pense qu'il devait être pareil, puisqu'ils se sont bien accordés pendant 3 ans. Voilà.
Attention, ça c'est de l'interprétation. Vous ne savez pas si elle ment ou pas. Vous n'en savez rien.
J'en sais rien, mais lui m'a dit, je ne pensais pas qu'elle t'enverrait un truc comme ça. Il m'a dit, c'est fini, j'essaye de l'appeler, mais elle ne me répond pas. Et c'est ça, j'ai dit, tu continues de l'appeler. Donc je pense qu'il continue. Je pense qu'il est parti tout seul pour pouvoir l'avoir quand il veut sans avoir de compte à rendre.
Oui, ouais, moi je pense qu'il a l'air surtout complètement perdu, hein, votre mari. Je crois qu'il a fait une grosse bêtise et qu'il ne sait plus où il en est, a priori, parce qu'il a tout perdu des deux côtés.
Je ne sais pas si elle l'a perdu ou pas, j'en sais rien. Je n'ai pas de soutien du côté de ma belle famille, ce sont des gens très égoïstes comme mon mari d'ailleurs. Je viens de le découvrir maintenant parce que ça faisait 36 ans que je croyais le connaître, enfin, le compte je ne le connaissais pas. Vu ce qu'il m'a fait, il avait une tête d'ange, c'est un démon, puisqu'il a été capable de faire tout ce qu'il a fait, ce qu'il a fait aux enfants. Ça, moi, à la limite, la maîtresse, je peux le pardonner parce que je l'aime toujours malgré ça. Mais ce qu'il a fait aux enfants, c'est trahison à nos enfants, je ne le supporte pas. Et je suis vidée, je n'arrive plus à... Je ne vis plus, je ne fais plus rien, je ne m'occupe que de moi pour aller travailler quand je travaille, mais sinon j'ai des crises de larmes malgré le traitement antidépressif. Et je vois une psychologue, mais bon, ça ne m'aide pas beaucoup. Je n'arrive pas à trouver la personne qu'il faut.
Oui, c'est peut-être
j'arrive pas à me libérer de cette emprise, je me sens rejetée, humiliée. Voilà.
Est-ce que vous le voyez encore de temps en temps?
Ben oui, je l'ai vu. Ben, comme on a un petit-fils qui est né il y a 16 mois, donc il avait déjà cette maîtresse. Donc de temps en temps, le 23 février, je l'ai vu parce qu'il savait que je perdais le petit, donc il m'a dit est-ce que je peux venir le voir. Voilà, il est venu me voir. Deux étrangers, il ne me regarde même plus. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un que je ne connais plus.
Mmh. Oui, il est probablement très mal à l'aise, forcément.
Ah oui, il est mal à l'aise, mais je ne sais pas s'il est comédien finalement ou pas, parce que avoir fait cette comédie pendant 3 ans, maintenant je ne sais plus où le vrai du faux.
Vous avez quand même commencé cette conversation en me disant que c'était un taiseux, quelqu'un qui ne partage pas ses mots, ses émotions.
Voilà,
donc c'est terrible, parce que vous êtes au contraire une femme qui a besoin de parler, de partager.
Ouais,
et quand on est face à un mur comme ça, on ne peut qu'interpréter parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Quoi.
Voilà, j'interprète à ma façon, mais je ne sais pas
oui,
si
mais...
c'est ça.
Le problème, c'est que comme vous êtes blessé, vous interprétez de manière extrêmement douloureuse à chaque fois.
Oui, le problème est là. Je n'arrive pas à me sortir de là. Je ne fais que pleurer. Bon, là, ces 2 jours, ça va un peu mieux. Mais je n'y arrive pas. Je vois l'avenir en noir. J'ai 62 ans. Alors, les gens vous disent « Ah, vous pouvez vous refaire votre vie. Vous êtes bien, vous êtes ici, vous êtes là. » Mais moi, je n'ai pas envie de faire ma vie.
Alors, de quoi vous avez envie vraiment dans le fond de votre cœur?
Que mon mari revienne.
Je pense que le meilleur moyen de le faire revenir, paradoxalement, c'est de lâcher prise pendant quelque temps.
Ah oui, mais écoutez, il est dur à l'entière. Il savait que mercredi, je devais garder mon petit-fils. Il a super mon fils dimanche dernier. Et donc, jeudi matin, il m'a appelé au bureau en me disant « T'as gardé le petit et tout ça ?» Je lui disais non, le petit était fatigué, donc je ne l'ai pas eu. Et je lui ai dit, j'ai eu le malheur de lui dire, je te languis. Il me répond,
mais non.
Ça va, je suis bien. Il a l'air de dire, je suis bien tout seul et il n'en dit pas.
Oui,
il me dit, j'ai dépensé, voilà. Il me dit, j'ai dépensé pour vous, en parlant de ma fille et moi. Mais voilà, mais on dirait que sa solitude, au contraire, il se complaît là-dedans.
Mais je pense qu'il en a besoin, quel que soit ce qui se passe de l'autre côté, on n'en sait rien. Probablement plus rien, je pense. Mais je crois qu'il est en train de faire une crise existentielle et qu'il a besoin de se retrouver aussi, lui. Et je sais que c'est difficile à entendre pour vous, mais lâcher prise, ça veut dire justement ne même pas essayer d'entrer en contact avec lui, ne pas lui faire sentir que vous êtes en attente, mais prendre du temps pour vous. Peut-être prendre du temps pour refaire du sport, pour vous faire masser, pour vous soigner, pour vous occuper de vous. Soigner dans le sens des soins de beauté, des choses comme ça. Reprendre aussi un petit moment pour vous, quelques semaines, quelques mois, pour vous reconstruire vous-même.
Le problème, c'est que cette reconstruction, je n'ai pas cette envie. Je n'ai plus envie de rien. Je me suis pris un tsunami dans ma tête. j'avais tellement confiance en lui que tout s'est effondré. Un immeuble qui s'est effondré sur moi.
Mais oui, parce que ouais, mais aujourd'hui la réponse elle est pas en lui, elle est chez vous. Il faut que vous repreniez. Vous avez un lien qui s'est coupé avec lui, et c'est à vous de construire un lien avec vous-même d'abord. Être suffisamment bien avec vous pour pouvoir éventuellement renouer un autre lien avec lui, quand lui aussi se sera un peu réparé, parce que j'ai l'impression qu'il est, pour l'instant dans une période de questionnement, probablement.
Oui, parce que toutes les fois que je lui dis qu'il n'y a pas envie de revenir, on ne parle plus de ça, ce qui est fait, maintenant on ne peut plus revenir en arrière. On repart, on reconstruit quelque chose dans notre famille, parce que nos enfants sont terriblement blessés, parce qu'ils n'étaient pas. C'est ce qui se passe, on a ce petit-fils qui est magnifique. Moi, je comptais profiter de prendre ma retraite bientôt et tout. Ben, du coup, je ne peux pas la prendre parce qu'il est parti, j'ai un salaire à mi-temps, donc je n'ai presque pas. Et il me paye juste le loyer, je n'ai pas beaucoup de revenus, donc je suis très mal et il ne veut pas divorcer. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et tout ça, ça me tracasse.
Bien sûr, mais en même temps, vos enfants, ils ont quel âge ?
Mon fils a 33 ans, et donc il est père de famille, et ma fille a 26 ans.
Oui, donc pardon, mais ce sont des adultes, et j'allais vous dire, ils peuvent être touchés ou affectés, mais en même temps, ça ne les regarde pas. C'est une histoire entre votre mari et vous.
Oui, oui, tout à fait, mais ils sont très affectés de ça.
Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est, voilà, ils ne sont pas là ni pour juger, ni pour se mêler de ça, c'est vraiment entre votre mari et vous. Et moi, je pense que vraiment, si vous pouviez... Peut-être vous faire aider avec... Vous m'avez dit que vous avez un traitement là, antidépresseur. J'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup.
Oui, non, je suis sous Prozac. On m'avait donné du Tranxène aussi, mais le Tranxène m'endort beaucoup. Donc, les jours où je suis à la maison, ça va, mais quand je travaille dans un cabinet médical, je peux pas dormir. Hein.
Non, c'est
donc,
pas
j'ai cessé le Tranxène. Je prends un Xanax par jour. Ça, on dirait que ça m'enlève un peu l'angoisse, mais j'ai cette angoisse et j'ai cette espèce de vide. Vous voyez, je marche dans la rue, j'ai une partie en moi qui n'existe pas. J'avance, mais il n'y a personne.
Et c'est ça que je vous dis, c'est cette partie-là qu'il faut reconstruire pour ne pas dépendre de l'autre. Pour que votre mari sente qu'à un moment donné, vous avez envie qu'il revienne, mais que vous n'avez pas besoin qu'il revienne.
Je ne sais pas.
Parce que le besoin lui fait peur, visiblement. Cette dépendance lui fait peur. Il est dans une période compliquée probablement pour lui aussi.
Ouais,
et ce qu'il faut vraiment pour l'instant, c'est vous concentrer sur vous.
Oui, d'accord.
Réparer ce qui est cassé chez vous, restaurer un lien avec vous-même. Être mieux vous-même pour ensuite envisager d'être mieux avec lui. Mais pas dans la demande. C'est à chaque fois qu'il appelle, vous dites alors, est-ce que tu reviens ? De l'autre côté, ça va être courage fuyant parce qu'il n'est pas capable pour l'instant de prendre cette décision.
Non, je crois qu'il n'apprendra pas parce que le fait. Par contre, il a su prendre certaines décisions, cette femme, et faire tout ce qu'il a fait dans mon dos, tout ça. C'est ça qui m'énerve, c'est ça que je ne supporte pas parce qu'il m'a pris pour une imbécile sur toute la ligne. Et le pire, c'est que je n'arrive pas à évacuer mon frère.
Bah, c'est ça qui m'embête aussi, c'est que théoriquement, la thérapie, c'est fait pour ça.
Hein. Ah oui, mais la thérapie, parlant, apparemment, ne fonctionne pas.
Et il n'y a pas moyen de changer de thérapeute, de trouver quelqu'un avec qui ça se passe mieux.
Ça fait trois fois. Ça fait deux psychiatres que je vois. Et les psychiatres ont tendance à me donner des cachets pour essayer de vous changer les idées. Mais les cachets, moi, m'ont dit que ça ne change rien.
C'est pas les cachets qu'il vous faut, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler toutes les semaines.
Voilà, mais et la psychologue avec qui je parle est jeune, mais elle me dit toujours comment vous voyez ça, c'est. Moi, je ne sais pas, j'attends justement qu'on me guide et qu'on me dise...
Oui, vous tournez en boucle, là. Ouais.
Voilà, je tourne en rond et finalement, ça n'apporte rien du tout. C'est pour ça que je vous appelle, parce que ma soeur écoute l'émission tous les soirs. Elle m'a dit, Hélène, appelle-les, tu verras, ils arrivent à dénouer certaines choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui, parce que je suis très mal, dans un mal-être.
J'entends ça. J'entends ça, mais...
J'entendais le monsieur juste avant vous qui disait ce psychiatre, il habite où ce monsieur ?
Ah, alors, autant vous dire qu'il a fait un carton plein, parce qu'on a eu plein de messages qui demandent à Bernard le numéro de son psy.
Oui, voilà, mais il est où ?
Je vous avoue que je ne sais plus, je demanderai à Amandine qui a géré ça dès tout à l'heure hors antenne. Je pense qu'elle a mis plein de gens en contact avec lui pour ce numéro-là. Je ne sais plus de quelle région il était, Bernard, mais on verra ça hors antenne si vous voulez avec Amandine. Mais je pense pour vous, la première urgence, c'est de trouver une thérapeute qui vous convienne. C'est pas grave si vous avez déjà changé deux ou trois fois, on s'en fiche, ce qui compte, même si vous changez dix fois, c'est de trouver la bonne personne.
Parce voilà, quelqu'un là, je qui pense vous... que je ne l'ai pas trouvé encore.
Bon, ben, c'est pas grave, laissez-vous le temps de la trouver, vous la trouverez. Il y a forcément ouais. quelque part quelqu'un qui va vous prendre par la main et vous aider à trouver le bon chemin.
Ça va.
Et le bon d'accord. chemin, c'est d'abord vous. Lâchez prise sur votre mari, reconstruisez-vous, reconstruisez l'estime de vous-même, reconstruisez un lien avec vous-même. Profitez oui. de cette période de solitude pour penser à vous. Et ne pas, voilà, ne pas attendre de l'autre une reconstruction, voilà, mais se reconstruire oui. soi-même d'abord. Voilà, et oui, paradoxalement, d'accord. si votre mari sent que vous devenez plus solide et que vous vous reconstruisez seul, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse quand même l'attirer, que ça soit plus facile pour lui de reconstruire quelque chose après ça.
Je ne sais pas s'il va revenir. Je sais que c'est ça qui me fait peur. Il ne répond pas.
Mais pour l'instant,
j'ai
non.
J'ai peur qu'il s'éloigne de moi. Mais comme c'est qui me tracasse le plus, c'est que comment on peut oublier 34 ans de vie commune comme ça. Et surtout que quand ça n'allait pas, il n'a jamais rien dit. Quoi. Ah, mais... Il a encore fallu que ce soit moi qui me rende compte de ça.
Oui, mais attendez, Hélène, ça c'est son tempérament. Vous avez commencé par me le dire. Vous n'allez pas le changer.
Oui. Ah non, je ne changerai pas. Mais on ne fait pas ça. On ne peut pas ça à quelqu'un qu'on a aimé. On n'est pas aussi... ignoble
et immonde. Hélène, pardonnez-moi, mais c'est pas le premier au monde à tromper sa femme. Hein. C'est quand même un grand
oui,
classique.
Oui, je sais bien, mais les autres, je m'en fous.
Oui, non, mais je veux dire, comment pouvez-vous mal... femme ou homme, la tromperie, ça existe depuis que l'univers existe. Hein.
Oui, tout à fait. Mais moi, je ne pensais pas qu'il soit capable de me faire ça. Voilà.
Et je pense voilà, que vous vous trompez quand vous dites comment peut-il oublier autant d'années de vie commune. Je ne pense pas qu'on oublie la vie commune. Qu'il a oublié la vie commune, c'est juste que pendant... La vie se vit au présent. Et que ce n'est ouais, pas les années mais... passées avec vous qui l'ont freiné, qui ne les a pas oubliées, simplement, voilà, il y a, pour une raison ou pour une autre, il a fait une crise et cette femme lui a tourné la tête. Ouais, moi, quelque chose
me... Il a dans la peau, cette femme, hein, parce que...
Bah, j'en suis pas si sûre que vous, parce que quelque chose me fait plutôt penser, là, qu'il est plutôt seul. Hein.
Bon,
et qu'elle n'est plus tellement dans les parages. Mais après, que lui, il a un travail à faire aussi sur lui-même. Peut-être qu'il a des questions à se poser. Si, en plus, il ne parle pas,
ouais,
ça ne va pas être simple.
C'est quelqu'un qui ne consultera jamais personne. Je lui ai dit, tu aurais besoin d'aller voir un psy puisque tu ne veux pas parler. Il m'a dit, je me suis juré, je ne dirai rien à personne. Il ne parle pas à ses parents, il ne parle à personne. Il garde tout pour lui. Il a préféré s'en aller tout seul, qu'il va dans un studio. Et voilà, il est tranquille, il va dans son studio, il est tout seul, il va travailler, il rentre dans le studio. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit l'autre fois.
Tranquille, voilà. je ne suis pas sûre que ça veut dire heureux. Hein. Je pense qu'il est en période de questionnement.
Voilà,
mais c'est pas en l'insistant, en lui faisant sentir que vous êtes dépendante que ça va le faire revenir. Je pense que c'est vraiment.
Non, de toute façon, je crois qu'il le sait, hein, de toute façon.
Ben oui, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
C'est vraiment vous, en travaillant sur vous et en restaurant, parce que je pense que du coup, j'ai l'impression que forcément, il y a vous vous dévalorisez en disant, mais finalement, il y a quelque chose
oui,
qui.
Hein,
vous avez perdu l'estime de vous-même dans tout ça.
Oui, tout à fait. J'ai plus envie de rien. Bon, j'ai énormément maigri. À la limite, je me laisse un peu aller, mais je me requinque un peu quand je dois sortir, quand pour aller travailler, parce que je suis à l'accueil d'un cabinet médical, donc je ne veux pas non plus que je sois pourri, comme on dit. Mais je n'ai plus envie de rien. Je n'arrive même plus à coudre, que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai une maison dans un étage, je fais le strict minimum. Le mot envie, je ne sais plus ce que ça veut dire.
Ça ne vous tenterait pas d'essayer l'hypnose thérapeutique?
Qu'est-ce que c'est ça?
Bah de faire des séances d'hypnose pour vous libérer de ça.
Ah, l'hypnose, je n'avais pas compris, excusez-moi.
Quelle est cette chose mystérieuse?
Je n'ai pas compris le début, oui. Ah, l'hypnose, mais d'ailleurs, les médecins, les généralistes avec qui je travaille, m'en ont parlé, mais je ne sais pas,
parce
ça consiste en quoi.
Il y a des séances, dans ces situations-là, des séances très intéressantes qui permettent de couper symboliquement un lien ou de faire ce qu'on appelle le deuil du mari parfait. C'est-à-dire qu'on travaille sous hypnose à vous permettre de prendre la bonne distance émotionnelle par rapport à tout ça.
Ah, d'accord.
Arriver à faire un deuil d'une situation qui n'est plus, ok, mon mari a été infidèle, c'est comme ça, et passer à autre chose. Et l'avantage de l'hypnose, c'est que ça avance assez vite par rapport à une thérapie classique. Et c'est très complémentaire. Donc, si vous voulez trouver une bonne psy d'un côté, et puis faire quelques séances d'hypnose pour travailler sur ce lien-là qui n'est plus le même et qui ne sera plus jamais le même de toute façon. Soit il n'y en a plus du tout, soit il y a un nouveau lien qui va s'instaurer avec votre mari, mais ça ne sera pas l'ancien.
Ah oui, non, ça c'est sûr, c'est plus le même.
Mais avec l'hypnose, ça peut vous aider à vous apaiser assez rapidement.
Ah oui, 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 c'est ce que j'aimerais, parce que moi j'en ai marre. Et cet été, il y a ma nièce qui se marie, c'est important pour moi, j'adore cette petite et tout. On avait prévu ce mariage, j'arrive pas à me focaliser sur la tenue, sur son cadeau, tout ça me fait peur, tout ce qui va arriver dans l'avenir me fait peur parce qu'il n'est plus là, quoi.
Mais oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut, ouais, vous reconstruire vous d'abord.
D'accord.
Parce que la solution ne viendra pas de lui, il faut que vous teniez vous debout toute seule. Et que vous ayez simplement envie qu'il revienne, oui, et pas besoin qu'il revienne.
Voilà, c'est envie, mais bon, c'est fou quand il me dit, un jour il m'a dit, t'as pas fini de prendre des cachets, l'air de dire, ben, tu prendras les cachets parce que tu ne me reverras plus, quoi.
Voilà. Oui, attention à l'interprétation, quand on est en colère, Hélène, on interprète tout mal.
Oui, alors, quand il me dit aussi, il me dit, n'espère pas que je revienne un jour, c'est terrible, il est méchant, parce que c'est lui qui a été méchant avec moi. Moi, je ne lui ai rien fait, il m'a fait du mal, mais pendant 3 ans. Je me demande même s'il réalise ce qu'il a fait.
Pas forcément, ça c'est toujours difficile, c'est chacun a son point de vue, chacun a ses raisons. Mais dites-moi, vous en 34 ans de mariage, vous m'avez dit?
Oui.
Il n'y a jamais eu personne, il n'y a jamais eu un petit coup de canif dans le contrat?
De ma part, jamais.
Oui, jamais.
Lui, non, jamais, jamais.
Et lui non plus.
Lui, je ne sais pas. Ah, maintenant, menteur comme il est, je l'ai découvert menteur depuis juillet 2018. Là, je peux me poser des questions. Et si je commence à me poser des questions là, bientôt, alors je rentre à la ville. Non, moi, jamais eu de coup de main. Avant lui, oui, mais après lui, c'était mon mari, c'était personne. Voilà. Il n'y a jamais eu rien du tout. Hein. Voilà, on faisait soi-disant le couple parfait.
Et vos amis pensent quoi tout ça?
Alors, je vais vous dire une chose. On a vécu un peu en autarcie. Moi, je ne vivais que pour lui et mes enfants. Donc, les amis avec les enfants, on est d'une génération. Du jour où on s'est mariés, on s'est un peu tous perdus de vue. Donc, du coup, on n'en a pas beaucoup. Et lui, il est le seul à se confier. Il n'a pas d'amis non plus. Toujours tout seul. Toujours tout seul, donc toujours avec moi. Et comme c'est un TZE, je vais vous dire, quand on allait chez les gens, qu'on était invité, qu'on sortait, c'était un mec qui ne prenait jamais la parole. Il fallait toujours qu'on lui pose des questions. Et encore, ça tombait toujours à plat parce que c'est pas le genre de mec à discuter. À part quand il parlait de foot, là, il vous parlait de ça pendant des heures. Mais il était incapable d'avoir des discussions. Je me demande même comment il a fait pour brancher cette femme, vous voyez. Je me pose encore des questions. Je me dis, mais comment tu as fait? Je lui ai posé toutes ces questions. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour arriver à la gripper, cette fille? Elle t'a sauté au cou, c'est pas possible. Il m'a dit, non, j'ai été patient pour l'avoir. Voilà. Il a eu à l'usure.
Oui.
Parce que cette fille, enfin, à 60 ans, c'est une femme, grand-mère 5 fois, mais elle ne voulait pas de lui à la maison, ni le soir, ni les week-ends. C'est-à-dire, elle ne voulait pas s'occuper d'un homme. Elle voulait le bon côté, mais pas le mauvais. Le mauvais, c'était pour moi. C'est-à-dire les lessives, la bouffe, le soir. Et
mais c'est pour ça aussi. Quoi. Profitez peut-être de cette pause, je lui dis, pour vous recentrer sur vous. Laissez-le mariner un petit peu, laissez-le grandir dans son coin, laissez-le faire sa crise et comprendre ce qui lui arrive. Et recentrez-vous sur vous. Alors, il y a deux choses importantes, vraiment, qui me paraissent essentielles pour vous. Trouvez un bon thérapeute. Une fois de plus, c'est pas grave, ça fait 3 fois, et ben ça sera peut-être la 4e ou la 5e.
Non, je suis prête à.
Vous avez entendu tout à l'heure ce que disait Bernard, quand on a la bonne personne.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah, tiens, lui, il a de la chance, je vais demander où il est, ce Bernard.
Je vais vous laisser avec Amandine, on va voir ce qu'elle peut faire. Et la deuxième chose, puisque votre médecin généraliste vous parle d'hypnose, il a probablement des bons contacts dans votre région, dans ce domaine. Et demandez-lui, essayez d'aller faire une ou deux séances pour tester ça et voir comment vous vous sentez après.
D'accord, ça va. Mais je vais faire ça alors.
Ça peut déjà être un apaisement assez rapide tout ça. Alors, vous ne quittez pas, s'il vous plaît Hélène, Amandine va vous reprendre tout de suite.
D'accord, mais je vous remercie infiniment, ça a été gentil, et vous avez une voix apaisante.
C'est gentil Hélène, je vous embrasse très fort.
Moi aussi, je vous fais de gros bisous, bonne soirée, au revoir.
Merci, au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais faire la connaissance d'Henri. Bonsoir Henri.
Bonsoir, je m'appelle Enrico. J'habite dans le sud-est et comme formation, j'ai fait des études, un bac C et 5 années de sciences biologiques.
Excusez-moi, j'ai pas très très bien compris. 5 années de
sciences géologiques.
De sciences géologiques, d'accord.
À la faculté. Et après, j'ai été engagé par une compagnie pétrolière qui m'a envoyé... J'étais le plus jeune de ma promotion, m'a envoyé en Iran et puis en Afrique. Donc, j'ai travaillé très longtemps, presque tout le temps à l'étranger. Et en Afrique, j'ai connu, me suis fiancé avec Anne-Marie, et puis on s'est marié déjà depuis 56 ans. Et puis, elle est décédée il y a 2 ans. Donc, je me trouve à l'étranger avec la famille italienne loin et ma fille, elle est mariée, elle travaille aussi avec son mari à l'étranger. Ils ont été en Corée du Sud, en Afrique. Quand ils sont en France, ils sont, moi je suis dans le sud-est, ils sont dans le nord-ouest. Bon, une fois j'ai pris l'avion, j'ai été les voir, mais disons que je n'ai plus de famille, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Et voilà, mon problème, c'est une immense solitude que j'ai jamais goûté, parce que nous sommes dans une grande famille, j'étais le cadet de 5 garçons. Mon père était un grand journaliste et écrivain. Je suis né à Gênes, et puis on a habité Venise, Milan, parce qu'il était directeur de plusieurs quotidiens importants. Et puis voilà, maintenant, je me retrouve très seul et je ne sais pas comment faire. Voilà, ça c'est un petit résumé de mon existence.
Henri, est-ce que je peux me permettre de donner votre âge ?
Maintenant, j'ai 84.
84 ans, et je trouve que vous avez beaucoup de charme dans la voix. Et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a une vie assez exceptionnelle.
Oui, mais c'est du passé, ça. Maintenant, comment sortir de cette solitude ? Peut-être c'est une question stupide, mais comme on a été toujours dans des grandes familles, moi je vous dis, j'étais les cadets de 5 garçons, je me trouve plutôt perdu. Mais je sais qu'il faut s'occuper, mais c'est un peu difficile à mon âge, hein.
Alors,
vous voyez.
Bien sûr, vous êtes dans le sud-est de la France, vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour sortir de cette solitude ? Est-ce que vous arrivez quand même à peut-être faire une activité, peut-être...
Oui, je fais quelque chose, je ne sais pas, dans les CCAS ici, du yoga, de la gym, l'équilibre, de la gym, de dessin, peinture, mais... Ça, c'est un peu du passé. Maintenant, je fais encore quelque chose. Je ne supporte pas tellement la solitude, vous voyez. Parce que nous avons une seule fille qui est loin, comme je vous ai dit. Et quand ils sont en France, ils sont dans le nord-ouest. Donc, à l'opposé, bon, j'ai été les voir quand ils y sont. Mais vraiment, aussi, la famille d'ici... et du pays limitrophe, elles sont très loin. Et les amis, on se les fait surtout avec des activités. Activités qui commencent à être un peu lourdes pour mon âge.
Bien
vous
sûr.
Voyez.
En même temps, je suis persuadée qu'il y a forcément quelque part une femme qui est aussi dans votre tranche d'âge et qui pourrait vous convenir.
Vous croyez ?
Pourquoi pas ? Vous savez ce que je vous propose, Henri ? C'est que là, ça va être un peu compliqué parce que le temps passe vite et que l'émission se termine.
Oui.
Est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous rappelle demain soir et qu'on se fasse un peu plus ample connaissance ?
Si vous voulez, sans problème.
Et que peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui soit dans le sud et qui a envie de vous rencontrer, une femme qui soit dans vos âges, quelque... vous ne seriez pas contre une femme qui a 70 ans, 70-80 par exemple ?
Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, demain soir, c'est dimanche soir. Hein ?
Demain soir, c'est dimanche soir. Si vous êtes disponible, je vous donne rendez-vous à partir de 23h. Amandine ou Hassan vous rappelleront.
D'accord.
Et
je suis d'accord et je vous remercie beaucoup.
Et là, ça va être un peu juste pour qu'on puisse se parler, mais d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre parce que d'abord, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées comme vous qui ont autant de charme dans la voix et qui ont une vie avec certainement plein de choses passionnantes à raconter.
Oui, il faudrait que j'écrive. Mon père, il était écrivain. Il faudrait que je me mette à écrire ma vie.
Eh bien, pourquoi pas ?
Oui, bah, c'est une idée, hein, puisque vous me faites un compliment. Mais en principe, je n'ai jamais écrit de livre.
Mon père, il en a écrit 10. Il y a un début
oui, ça viendra.
Tous les gens qui ont publié leur premier livre vous diront que je n'en avais jamais écrit un autre avant.
Je vais en écrire un, l'histoire de ma vie.
Et pourquoi pas? En tout cas, le rendez-vous est pris, Henri. Merci pour ce joli sourire.
Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir, madame.
Et on se retrouve demain soir à 23h pour continuer à discuter tous les deux.
Merci.
Je vous embrasse.
Au revoir.
Quel joli sourire, ça fait du bien. Merci, merci à vous, Henri. Merci à Hélène, merci aussi à Bernard, à Brigitte, à Monique qui sont venus ce soir en toute sincérité ouvrir leur cœur et nous parler d'eux, de leur vie. Merci à vous tous qui avez été très nombreux ce soir à participer par SMS. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à laisser votre numéro, vos messages sur le répondeur du 3921. On se retrouve demain soir à partir de 23h pour de nouvelles confidences. Et je vous quitte avec cette citation que j'ai choisie pour vous. Nous sommes des êtres vibratoires. Nous émettons des vibrations. Et dès que nous émettons une nouvelle fréquence, eh bien les conditions et les circonstances évoluent. Autrement dit, nous créons notre vie avec nos pensées. Je vous souhaite une bonne et douce nuit et je vous retrouve demain soir avec le même plaisir.